Je remercie évidemment Madame Parmentier d'avoir, avec autant d'énergie, essayé de rejoindre Mons pour venir nous parler de la Révolution française avec une conférence qui s'intitule « La Révolution française, crépuscule d'un ancien régime, aube d'un nouveau ». Madame Parmentier, certains d'entre nous avaient déjà eu la chance de l'entendre quand il y a 3 ans à peu près. On avait fait le jeudi un petit cycle sur le 18e siècle à l'occasion de la venue en nos murs de Madame Malato qui était en congé sabbatique ici. Mais Madame Parmentier alors avait introduit au 18e siècle et s'était justement arrêtée juste avant la Révolution française. Elle va pouvoir aujourd'hui poursuivre d'une certaine manière. Elle est professeure d'histoire moderne aux facultés universitaires de Namur. Elle est également vice-recteur aux relations internationales et aux bibliothèques, et ses recherches portent tout spécialement sur les 18e et 19e siècles et sur les questions d'histoire environnementale. J'espère qu'elle a retrouvé son souffle et qu'elle pourra donc nous parler de la Révolution française.
Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, tout d'abord. Merci à vous pour votre patience. Je ne vais pas revenir sur les différents avatars qui m'ont amené au retard de ce début de séance. Et je vais d'emblée entamer donc le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. La Révolution française, crépuscule d'un ancien régime, aube d'un nouveau. Et j'ai mis un point d'interrogation, puisqu'il s'agit justement de voir ce qui, dans ce changement important qui arrive à la fin du XVIIIe siècle, est plutôt de l'ordre de la fin, de la chute d'un régime, et au contraire, est de l'ordre du début de nouvelles aventures, tant politiques qu'autre, puisque la Révolution française va s'implémenter dans nos sociétés dans différentes directions. Ce que j'ai choisi d'envisager avec vous aujourd'hui, c'est en fait essentiellement des questions liées autour de la réorganisation territoriale. Les thématiques de mes recherches habituelles sont plutôt de l'ordre de l'histoire de l'environnement, de la géographie historique, et donc c'est un peu sous cet angle-là que je voudrais envisager aujourd'hui les questions liées à la Révolution française. Alors, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que je vais bien entendu me baser sur des recherches que j'ai effectuées moi-même, mais aussi sur des recherches menées essentiellement par 2 collègues spécialistes du 18e et du début du 19e siècle, M. Claude Demoreau de Gerbeuet, qui a étudié ce que l'on appelle le cadastre thérésien, sur lequel je reviendrai bien sûr dans l'exposé, d'une part, et d'autre part, sur les recherches menées par Sébastien Dubois, qui a produit, il y a peu, un ouvrage sur ce qu'il a intitulé « La révolution géographique », et donc tous les bouleversements liés à la départementalisation de nos régions, à l'instar de ce qui s'est fait dans la République française. La question donc de la réorganisation territoriale, elle traduit bien les sentiments d'un côté de populations attachées à leur tradition, à ces traditions, et d'un autre côté la volonté de rationalisation des autorités françaises d'abord et puis belges par la suite. Et donc c'est un beau cas pour explorer finalement ces bouleversements de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Alors pourquoi était-il important d'opérer ces modifications territoriales? Eh bien parce que, et je vous ai remis ici pour démarrer quelques repères concernant la Révolution française, c'était donc c'est important parce que un certain nombre de décisions prises du côté de la jeune République française vont être transmises, vont être implémentées de notre côté dans nos régions. Alors, certes, si je vais vers un rappel rapide des grands moments et insister sur ceux qui sont en rapport plus précis avec le propos d'aujourd'hui, certes, nous savons tous que la Révolution française, elle est associée à la date de 1789, mais bon nombre d'entre vous savent également que 1789, pour les territoires belges, parce que mon propos va être vraiment de nous axer sur les territoires belges, eh bien, cette date ne représente absolument pas la même chose. Il y a bel et bien une révolution, il y a bien bel et bien un changement de régime de notre côté aussi, mais il est plutôt de type réactionnaire et on a un tout autre genre de révolution qui se passe à ce moment-là. Donc, les idées révolutionnaires françaises qui vont prendre cours, elles avaient des antécédents, bien entendu, mais qui vont véritablement se concrétiser à la faveur de l'ouverture des États généraux et des différents événements qui vont se bousculer par la suite, eh bien, ils n'ont pas encore de réalité dans nos territoires, en tout cas pas de la manière dont ils l'ont eu en France. Mais je vais venir également sur le fait qu'il y a chez nous tout un mouvement, évidemment, de rationalisme qui traverse le XVIIIe siècle. Alors, l'important pour notre point de vue belge, c'est évidemment que en 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche et que l'on entre là dans une succession de va-et-vient, d'aller-retour, hein, d'armées françaises sur le territoire belge, sur le territoire à l'époque des Pays-Bas autrichiens, et à contrario, de restauration autrichienne lorsque les armées autrichiennes reprennent le dessus. Et on poursuit après 1792. 1792, bataille de Jemappes, l'armée française, après la bataille de Jemappes, poursuit ses conquêtes et entre à Bruxelles. Important également, la même année, une délégation belge se présente devant la Convention pour réclamer l'indépendance de la Belgique. Et un élément intéressant à souligner est que, certes, nous allons arriver en 1795, j'y viens tout de suite, à une annexion des territoires belges à la jeune République française, mais initialement, ce n'est pas le projet qui était en cours. Il y a plusieurs projets qui ont circulé, dont un qui consistait à avoir autour de la France, autour de la République française, un certain nombre de républiques sœurs, d'avoir une ceinture de républiques autour de la République française. Et donc, c'est dans cette perspective-là que la délégation belge se rend alors à Paris pour réclamer l'indépendance de la Belgique. Puis vous voyez qu'en 1793, on passe à une autre étape et on réclame l'annexion de la Belgique, et donc là avec une idée d'intégration, avec une idée de constitution d'un ensemble qui intégrerait la France, mais également un certain nombre d'autres territoires, parmi lesquels la Belgique. Après l'échec français à la bataille de Neerwinden et la restauration autrichienne, la bataille de Fleurus consacre alors la présence française dans nos régions et c'est entre août et octobre 1795 l'annexion d'un certain nombre de territoires qui constituent la Belgique actuelle, c'est-à-dire aussi bien, et j'y reviendrai aussi bien les espaces et les provinces qui étaient celles des Pays-Bas autrichiens que des espaces tels que la principauté de Liège ou le duché de Bouillon ou celui de Stavelot-Malmedy, par exemple. Voilà, donc, un focus plus particulier sur la situation en Belgique à partir, évidemment, de l'annexion de 1795, de la conquête de 1795 et de l'application de ces lois françaises, des décisions prises par la jeune République. Alors, la question de la réorganisation territoriale, elle se situe dans un ensemble évidemment beaucoup plus vaste de l'héritage que cette révolution française nous a laissé. Un héritage pour lequel, eh bien, tout autant dans le domaine du droit que dans le domaine judiciaire, que dans le domaine économique, que dans le domaine social ou d'autres, on peut s'interroger sur le caractère neuf ou sur le caractère finalement de continuité par rapport au XVIIIe siècle et par rapport à ce qui a pu être entamé auparavant. Donc, dans l'ensemble de cet héritage, eh bien, je vais m'interroger sur la question de la réorganisation territoriale plus spécifiquement. Je vais donc envisager tout d'abord la question des structures géopolitiques sous l'Ancien Régime. Finalement, pourquoi était-il nécessaire de modifier cet ordre des choses, de modifier cette organisation territoriale ? J'en viendrai alors aux réformes françaises et à ce qu'on va appeler la départementalisation. Mes deux autres points, 3 et 4, serviront alors à remettre ça un peu en perspective, voir d'un côté les antécédents, les projets et essais du régime autrichien dans ce sens-là, et d'autre part, si je me situe en amont avec ce qui s'est déjà fait au cours du XVIIIe siècle sous le régime autrichien, je voudrais aussi me situer en aval et remettre les choses en perspective en aval et voir comment a été reçue cette nouvelle organisation territoriale, comment cela a-t-il été vécu par les gens et ce que cela va devenir. Pardon, puisque le régime français ne va finalement pas durer très longtemps dans nos régions. On va passer en 1814 au régime alors hollandais avant d'arriver à la Belgique indépendante quelques années plus tard. Voilà, alors si vous me permettez un petite mise au point sur la situation des territoires qui formaient la Belgique d'aujourd'hui, à l'époque, donc, sous l'Ancien Régime, vous voyez qu'il s'agit véritablement, dans certaines régions, d'une mosaïque, d'un véritable patchwork, puisque les Pays-Bas autrichiens sont constitués par le comté de Flandre, voilà, si vous voyez avec mon petit pointeur, le comté de Flandre, qui est relativement homogène, est constitué par le duché de Brabant, dont on voit qu'il contient un certain nombre d'enclaves, des enclaves qui sont celles de la seigneurie de Malines. On distingue également le comté de Hainaut, le comté de Hainaut qui est peut-être moins homogène déjà, puisque toute la situation du Tournaisis a été sans cesse ballottée de part et d'autre de la frontière et de souveraineté différentes. Et vous voyez que sur sa frontière est, il y a toute une série de localités qui sont tout à fait déchiquetées, et déchiquetées parce que l'espace ici est l'objet de la souveraineté donc du comté de Namur, mais aussi et surtout d'un état différent qui est celui de la principauté épiscopale de Liège. Aux Pays-Bas autrichiens, on peut rajouter encore le gros duché de Luxembourg ici, ainsi que le duché de Limbourg qui se trouve de ce côté-ci. Alors, vous voyez que toute la zone frontalière ici est un véritable méli-mélo de terres, comme on disait à l'époque, entremêlées, de terres entremêlées qui rendaient extrêmement complexe la gestion des territoires. On a là des États qui sont véritablement des États étrangers, des États distincts, et je ne parle même pas encore d'autres petits États tels que le duché de Bouillon, par exemple, ou celui de Stavelot-Malmedy. Bref, une situation qui, dans certaines régions, est extrêmement complexe, extrêmement difficile à gérer, Ça, c'est pour la vue, je vais dire, macroscopique. Maintenant, au niveau microscopique, il y a là aussi une certaine bigarrure de juridiction, une certaine bigarrure d'entités de nature différente qui rendent extrêmement complexe l'organisation et la gestion de ces territoires. Quelles sont ces entités ? Eh bien, c'est certainement d'une part que l'on a eh bien, les villes et les villages, certes, mais que l'on a aussi des paroisses dont la délimitation est extrêmement floue. Pourquoi ? Parce qu'une paroisse, c'est avant tout une communauté de croyants, et donc que sur les cartes, on ne trouve pas de délimitation ces paroisses. Si vous regardez sur la carte la plus connue pour le XVIIIe siècle, qui est celle de Ferraris, eh bien, on n'a pas de délimitation de ces paroisses. On a chaque petite maison, chaque petite ferme qui est dotée d'un numéro d'appartenance et qui est le même numéro que celui de l'église paroissiale dont il relève. Donc, des villes relativement bien délimitées parce que souvent encloses de murs, des paroisses qui, au contraire, ont des limites assez floues, et alors les seigneuries. Des seigneuries qui constituent un ensemble de droits et qui, là aussi, ne se matérialisent pas très clairement dans des espaces et sur des territoires. Ces différents niveaux de pouvoir, puisque la seigneurie, c'est avant tout, donc, comme je viens de le dire, un ensemble de droits, le droit de justice, ce sont surtout des droits judiciaires, donc un ensemble d'entités, un ensemble de droits qui a pour conséquence que l'application de la justice, par exemple, est particulièrement compliquée. Un même endroit peut relever d'une part de certaines cours féodales en fonction des liens que son seigneur a avec un suzerain, peut relever de tribunaux ecclésiastiques, peut relever d'une cour de justice alors provinciale ou d'un échevinage local. Bref, on a là une situation qui était extrêmement compliquée avec un certain nombre d'enclaves, vous l'avez vu, on voit évidemment les plus grosses ici, mais si l'on a une carte qui est avec une échelle beaucoup plus petite, on voit que ces enclaves, elles concernent parfois véritablement quelques lopins de terre et qu'il est donc très compliqué et pour les habitants parfois même et pour ceux qui doivent les gouverner d'avoir une vue claire des choses. Donc, cette situation est celle qui prévaut sous l'Ancien Régime et qui prévaut donc encore à la fin du XVIIIe siècle, à la fin de l'Ancien Régime, en 1794. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec le régime français, nous allons donc passer à ceci, c'est-à-dire à l'instauration de département, c'est-à-dire d'un redécoupage territorial avec de nouvelles entités qui, comme vous le voyez, ont fait disparaître un certain nombre de ces bigarrures, un certain nombre de ces poches, de ces enclaves qui étaient présentes à la fin de l'Ancien Régime. Donc, toute la partie autour de la Meuse et dans l'entre-Sambre et Meuse est nettement simplifiée pour former le département de Sambre et Meuse, justement. L'ancienne principauté de Liège est également simplifiée et a pris d'autres formes, est devenue le département de Lourdes et une partie est devenue également le département de la Meuse inférieure, département des forêts, etc. Excusez-moi. Donc, on a là un tout autre paysage qui se forme avec une structure hiérarchisée des départements, chaque département étant alors divisé en arrondissements, en cantons et puis en communes. On va rompre définitivement, en tout cas sur le papier, on va rompre définitivement avec la complexité des structures territoriales d'Ancien Régime. Et en fait, cette départementalisation, c'est la première expérience hors France. Elle sera appliquée après à d'autres territoires conquis par les armées françaises. Mais c'est donc la première expérience et une expérience qui se mène donc dans nos régions. Et donc, tout ce qui était enchevêtrement de structures féodales a bel et bien été gommé. Alors, ça, c'est évidemment la vision théorique, la vision sur papier. C'est le projet tel que les révolutionnaires français ont souhaité l'implémenter et la manière dont leurs relais dans nos territoires ont travaillé et pour aboutir donc à ceci. Que peut-on en dire ? Que peut-on en dire si on essaye de remettre cela un peu en perspective ? Je voudrais donc revenir un peu en arrière et réexplorer le XVIIIe siècle pour souligner un certain nombre de signes avant-coureurs et même plus un certain nombre de projets dont certains se sont réalisés et d'autres pas, et qui participe exactement de la même volonté de rationalisation qui ont fait le même constat d'une certaine impossibilité de gérer et d'une inadéquation des structures d'Ancien Régime à l'évolution des sociétés, à leur évolution économique, à leur évolution démographique, etc. Et ces différents constats ont donc amené à plusieurs projets. Alors, un premier antécédent, un premier constat de la nature tout à fait obsolète des structures d'Ancien Régime peut certainement être trouvé dans toute cette entreprise de réalisation de cadastres qui a été menée au cours du XVIIIe siècle. Je dis toute cette entreprise de réalisation de cadastres. Pourquoi ? Parce que le régime autrichien va se lancer, et c'est à l'époque de Marie-Thérèse, va se lancer dans un projet de très grande ampleur, souhaitant réaliser des cadastres afin d'appliquer de façon plus rationnelle l'impôt. Pour pouvoir appliquer de façon plus rationnelle l'impôt, pour pouvoir lutter contre les privilèges d'un certain nombre d'individus ou de groupes sociaux, eh bien, il fallait avoir la vue la plus précise possible des propriétés de ces individus, de ces institutions, de ces groupes. Et donc, sous Marie-Thérèse, eh bien, plusieurs cadastres vont être lancés. Ils vont être lancés aussi bien dans les possessions des Habsbourg, outre-Alpes, si je peux dire, que dans nos régions. Alors, dans nos régions, je distinguerai plusieurs entreprises. D'une part, un très gros projet qui va être la réalisation du cadastre du duché de Luxembourg à partir de 1766, et d'autre part la réalisation d'un certain nombre de cadastres beaucoup plus locaux. Il y a un certain nombre de villes qui vont réaliser des cadastres pour allant dans ce sens-là, d'une meilleure connaissance des propriétés et de la situation des uns et des autres, et qui concourent finalement au même objectif. Alors, cadastre de Marie-Thérèse à partir de 1766, donc que s'est-il passé ? Donc, comme je vous l'ai indiqué, le gouvernement autrichien veut essayer d'éliminer les privilèges et avoir une levée des impôts qui soit évidemment beaucoup plus efficace. Et donc, on décide de faire réaliser un cadastre, c'est-à-dire d'interroger tous les propriétaires un par un, de prendre note de leur déclaration, et à partir de là, de faire une synthèse, une vue d'ensemble, pour essayer d'établir précisément quelles sont les propriétés et la valeur de chacune de ces propriétés, des uns et des autres. Alors, pourquoi cela s'est-il fait dans le duché de Luxembourg ? Eh bien, parce que ça semblait être le terrain d'expérimentation le plus adéquat. Je ne sais pas s'il y a des Luxembourgeois parmi vous, mais l'idée en vigueur à l'époque, c'était que les Luxembourgeois étaient moins réactifs et donc moins prompts à la révolte que ne pouvaient l'être des Brabançons, par exemple, ou d'autres. Et donc, on va choisir une des principautés, un des duchés, qui, a priori, risque de ne pas trop bouger. De surcroît, le duché de Luxembourg est relativement séparé d'autres régions par des barrières naturelles, forêts, etc. Et donc, il est un peu plus isolé. On choisit donc ce terrain-là pour réaliser ce cadastre. Ces précautions n'étaient sans doute pas inutiles, puisque toucher aux privilèges, toucher évidemment à la manière de percevoir l'impôt, c'était extrêmement délicat. Et effectivement, il y aura malgré tout des remous pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle dans le Luxembourg suite à l'établissement de ce cadastre. Alors ce cadastre, il va bel et bien s'élaborer. On va recevoir les propriétaires en parlant sur l'ensemble du duché, donc vous imaginez, puisque le duché à l'époque c'est bien entendu non seulement la province de Luxembourg, mais c'est aussi le Grand-Duché et un certain nombre de territoires actuellement situés soit en Allemagne, soit en France, donc c'est un territoire considérable. On va réaliser, donc là, on va prendre note d'une multitude de dépositions. C'est un travail considérable et le temps que l'on prenne ces dépositions, que l'on en fasse de toutes ces tabelles individuelles, que l'on en fasse des tabelles générales, que l'on renvoie ça à Bruxelles pour analyse, etc. On arrive, là les années passent, on arrive à la fin de l'Ancien Régime, on arrive au moment des révolutions, 1787, 1789, et donc on n'a pas la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette entreprise et on n'a pas la possibilité, le gouvernement autrichien n'a pas la possibilité de l'étendre alors à toutes les provinces. Petite parenthèse, ça constitue une mine d'or pour les historiens puisqu'on dispose de toutes ces déclarations individuelles des habitants, des propriétaires plutôt à l'époque. Malheureusement, nous n'avons pas de documents cartographiques, donc nous n'avons pas de réalisation cartographique, mais derrière cette entreprise, il y a vraiment une très nette volonté de rationaliser les choses. Alors, un certain nombre de localités vont aussi mener leur entreprise cadastrale à plus petite échelle, bien entendu. Dans les années 1760, 1770, on a plusieurs localités, Charleroi par exemple en 1779, qui réalisent leur cadastre et qui essayent de voir clair sur les propriétés et sur la valeur de celles-ci et sur l'impôt que l'on pourrait établir. Donc ça, c'est un premier type d'entreprise menée dans nos régions par le régime autrichien au cours du XVIIIe siècle et qui, je pense, va véritablement dans le sens de ce qui se passera ensuite lors de la Révolution française. Alors, un deuxième type de projet qui a été mené pendant le XVIIIe siècle, c'est ce que l'on appelle le plan de découpage du Brabant. Le plan de découpage du Brabant mené par le drossard de Brabant, donc on va dire le chef de la maréchaussée à l'époque, donc Van der Stegen, qui va imaginer une réforme complète du découpage des zones de patrouille ses troupes, si on peut dire. Et donc, le duché de Brabant, qui à l'époque est énorme, puisque c'est le Brabant wallon, le Brabant flamand, et encore une partie qui s'étend sur les Pays-Bas actuels, au-delà de notre frontière. L'ensemble de cette zone, eh bien, Van der Stegen estime qu'il serait beaucoup plus gérable, beaucoup plus rationnel, de la diviser en carrés parfaits, pour quadriller littéralement l'ensemble du territoire. Et donc, il conçoit un plan de cette manière-là, en découpant tout en carrés parfaits et égaux, qu'il organise en termes de circulation des patrouilles de la maréchaussée. Et il propose ce plan, il l'élabore pour une première fois dans les années 1766 également. Il propose ce plan à plusieurs reprises aux autorités autrichiennes, mais à nouveau, au moment où elle semble percoler, au moment où elle semble correspondre avec effectivement la volonté de changement radical, c'est-à-dire notamment avec les réformes de Joseph II, il est un peu tard, l'ancien régime prend déjà un peu l'eau, et donc ça ne sera jamais d'application. Ces abstractions géométriques de Van der Stegen ne seront jamais d'application. Alors j'en viens, puisque je l'ai cité, à Joseph II, bien entendu. Joseph II qui, donc en matière territoriale, je ne vais pas ici reprendre l'ensemble des réformes que ce souverain extrêmement dynamique en la matière a imaginé et a souhaité implémenter. Je voudrais pointer celles qui, au point de vue de l'organisation territoriale et de la perception du territoire, ont pu avoir un impact et ont finalement anticipé un certain nombre d'objectifs et de motivations des révolutionnaires français. Je voudrais revenir sur une réforme donc de Joseph II dans les années 1786-87, qui est celle de la création des cercles d'intendance, la création de 9 cercles d'intendance, c'est-à-dire le redécoupage de l'ensemble des Pays-Bas autrichiens en entités qu'il va appeler des cercles et à la tête desquelles il y aura un intendant. Donc là, vous voyez qu'il s'agit d'une entreprise assez radicale qui fait véritablement, je ne veux pas dire qu'il fait fi des provinces préexistantes, mais qui, en tout cas, imagine sur de toute autre base, l'organisation du territoire. Et donc, à travers cette nouvelle organisation, ces cercles, on a vraiment une volonté affichée et explicite dans les archives, c'est dit noir sur blanc, une volonté de lutter contre les particularismes provinciaux, une volonté de lutter contre un certain nombre de démarches d'autonomie exprimées par les différentes provinces. Alors, cette réforme, elle va faire long feu, elle va vite être mise à bas, elle va s'évanouir, mais elle reposait, et c'est là l'intérêt, elle reposait sur des critères tout à fait nouveaux. Elle reposait sur des critères nouveaux qui sont l'organisation du territoire en tenant compte, par exemple, d'éléments tels que la superficie de ces entités, la superficie et les distances. C'est-à-dire que l'on envisageait aussi ces territoires comme des territoires vécus. Il fallait que les gens qui habitent tel ou tel village, telle ou telle ville, puissent de façon décente se rendre dans le chef-lieu du cercle qui avait été constitué. Donc Joseph II a essayé de constituer ces nouvelles entités en équilibrant les choses, si je peux dire, en tenant compte justement des voies de communication, de la possibilité d'accéder ou non au chef-lieu. Des questions également démographiques, pour ne pas avoir des cercles dans lesquels il n'y a quasiment personne et d'autres qui sont beaucoup plus peuplés. Des cercles également qui absorbaient les enclaves. Donc, tous ces particularismes et tout ce déchiquetage de frontières entre certaines provinces et entre certains États dans l'espace belge, eh bien, est pris en compte et ces cercles gomment un certain nombre de ces résultats des aléas de l'histoire. Et enfin, la constitution de ces nouvelles entités, elle s'est faite avec un outil tout à fait neuf à l'époque, c'est-à-dire les cartes. Donc on va réimaginer le territoire et son découpage, non pas en tenant compte de liens féodaux, non pas en tenant compte d'ancestraux rattachements, etc. On va fonctionner à partir de cartes. En particulier, ce sera la carte de Ferraris, sur laquelle on va essayer d'appliquer, alors, avec les critères que je viens de vous citer, des découpages qui sont les plus rationnels possibles. Et l'utilisation d'un outil cartographique pour, finalement, gérer le territoire et en faire une entité gérable, c'est vraiment une nouveauté intellectuelle, c'est vraiment une innovation importante, un certain déblocage mental, si je peux dire, qui est vraiment en rupture avec les pratiques administratives antérieures. Donc, on a là une grande nouveauté. Mais, je vous ai dit, 1786-1787, c'est une réforme qui, aujourd'hui, on dirait, en est presque restée à la lettre. Les principaux acteurs qui devaient appliquer cette réforme ont en vain attendu ce que l'on appellerait aujourd'hui les arrêtés d'application. Les révolutions brabançonnes vont suivre et ça va être étouffé dans l'œuf ou à peu près. Mais donc, voilà une initiative remarquable qu'il faut souligner. Alors, une deuxième initiative de Joseph II en matière de réorganisation des espaces, c'est en fait tout ce qui tourne autour de sa réforme judiciaire. Tout ce qui tourne autour sa réforme judiciaire, donc à la même époque, puisque à cette multitude de tribunaux de tous ordres et de tous niveaux dont je vous ai parlé en commençant, eh bien Joseph II va vouloir donc les supprimer, parce que là il s'agit bien d'une suppression. En ce qui concerne les cercles, il s'agissait plutôt d'une superposition, parce que là Joseph II ne s'était pas attaqué directement aux provinces anciennes, mais en quelque sorte voulait les laisser exister, mais les vider de leur substance pour constituer les cercles. Ici, au niveau de la justice, ça n'est pas le cas. On fait véritablement table rase du passé. Joseph II organise la classification et la compétence des juridictions en trois niveaux qu'il applique à l'ensemble du territoire de façon identique, puisqu'on a une soixantaine de tribunaux de première instance, on va avoir deux tribunaux d'appel à Bruxelles et à Luxembourg, et on va avoir alors au-dessus un conseil souverain de justice qui est amené à trancher un certain nombre de conflits entre les instances subalternes. Cette organisation tripartite, elle va évidemment de pair avec une conception du territoire et de l'organisation des juridictions et de leur terrain d'application, si je peux dire. Elle supprime donc tout ce qui est justice seigneuriale, justice provinciale. Elle applique un seul et même code dans toute l'étendue territoire. Il s'agit donc là d'une réforme assez radicale, qui va donner lieu notamment à des réactions assez vives et immédiates. Je vais en parler tout de suite. Donc, pour ce qui est du domaine judiciaire, on a là aussi un certain nombre de démarches qui sont entreprises dans le sens d'une plus grande rationalisation des choses. Alors, je voudrais encore parler d'une troisième réforme de Joseph II, en 1786, qui est celle de la réforme des paroisses, puisqu'il s'est attaqué aussi aux paroisses et à la manière dont celles-ci étaient articulées, étaient organisées. Et sa réorganisation des paroisses va aussi se baser sur des critères beaucoup plus rationnels, sur des critères géographiques de proximité, hein, puisque un des soucis de la population très souvent était la difficulté de se rendre à l'église paroissiale, surtout dans en temps d'hiver, quand les routes étaient difficiles, etc. Pour certains, c'était vraiment l'épreuve du combattant. Et donc, il y avait là certainement un certain nombre de soucis de la population. Et Joseph II va utiliser ces critères de proximité pour réorganiser les choses, pour réorganiser ses paroisses. Et également, un deuxième souci qui va prévaloir dans son projet, c'est un souci plutôt d'ordre politique et qui va être de soustraire un certain nombre de paroisses qui étaient à cheval sur deux souverainetés, hein, qui étaient à la fois en Pays-Bas autrichien, mais aussi éventuellement en France ou en territoire liégeois. Il va essayer de faire correspondre ces limites paroissiales aux limites des États et donc va faire en sorte que l'ensemble des paroisses qui se trouvent sur le territoire des Pays-Bas autrichiens ne se trouvent bien que sur le territoire des Pays-Bas autrichiens. C'est aussi une manière, évidemment, d'avoir la mainmise sur la direction des curés de paroisse et sur la formation de ces curés, puisqu'on les soustrait vraiment à l'influence étrangère. Donc, un certain nombre de ces difficultés et de ces imbroglios, hein, constatés sous l'Ancien Régime et issus de toute une histoire de la formation de ces provinces, était déjà bien, si je peux dire, dans le collimateur de ces réformateurs du XVIIIe siècle. Donc, on a là une certaine similitude, une certaine conjonction de motivations et d'objectifs entre ces réformateurs du XVIIIe siècle et ce qui va venir par la suite, c'est-à-dire les révolutionnaires français. Alors, qu'en est-il exactement maintenant de cette, entre guillemets, révolution géographique la Révolution française est-elle une révolution géographique et en particulier dans nos régions est-elle une réelle révolution géographique? Si j'utilise ce terme, c'est parce qu'à l'époque, très vite, il a été utilisé. Je vais y venir tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, en France, peu après les débuts de la Révolution, on va souhaiter faire abstraction de tout ce qui rappelle la barbarie, entre guillemets, de l'Ancien Régime et des temps de la féodalité. Et un des moyens va donc être de réorganiser le territoire différemment et de le redécouper, en en faisant des entités qui ne suivent pas exactement les mêmes frontières que ce qu'il y avait sous l'Ancien Régime et que l'on va appeler donc les départements. Donc c'est tout ce processus de départementalisation qui va être à l'œuvre. La volonté, c'est de réorganiser l'espace. La volonté, c'est aussi de créer de nouvelles bases territoriales à l'action politique. C'est de faire, donc, de créer de nouvelles bases territoriales à l'action politique et d'avoir là un autre type de représentation ou de représentativité des populations dans les différents organes dans lesquels ils sont représentés. Donc ça participe aussi d'une certaine volonté de régénération et d'une volonté de nourrir différemment les principes politiques et l'action politique qui va être menée. Et un des outils imaginés à l'époque, c'était de prendre à bras-le-corps l'organisation territoriale. Alors, ces bouleversements, cette réorganisation, elle se met donc en place dans les territoires français. Et dès 1791-1792, le terme de révolution géographique apparaît. Un certain nombre de géographes, de publicistes, de politiques utilisent le terme de révolution géographique, soulignant par là le caractère de bouleversement sans précédent de l'entreprise, soulignant la volonté de rompre avec des habitudes, avec un passé de plusieurs siècles que l'on a souhaité effacer. Alors, cette révolution géographique, pour reprendre donc les termes de l'époque, elle va donc être imposée dans nos territoires, elle va donc être imposée en Belgique. On va former 9 départements, 9 départements qui vont incorporer la principauté épiscopale de Liège, qui vont incorporer le duché de Bouillon et la principauté abbatiale de Malmedy, et on va l'organiser avec la même structure hiérarchique que ce que l'on connaît en France. Le principe est véritablement le même. Alors, à ce stade-là, on peut vraiment dire que les objectifs des réformateurs du XVIIIe siècle et de Joseph II en particulier, et de ceux du comité de salut public qui présidait aux destinées françaises à l'époque, vont vraiment dans le même sens, d'une rationalisation de l'État, d'une volonté de faire table rase des traditions, et également d'une volonté de réorganiser le territoire pour l'inscrire dans un ensemble plus vaste, et donc de donner à ce territoire les mêmes structures que ce qui existait ailleurs, en l'occurrence en France pour ce qui est des départements, pour lui donner un caractère de similitude et de facilité de gestion par rapport justement à un ensemble beaucoup plus vaste. De même, ce que Joseph II souhaitait faire et implémenter dans nos régions avait finalement pour objectif hein, d'adopter ou de faire adopter sur les territoires belges ce qui existait déjà ou ce qu'il avait également en projet dans ces autres territoires et d'avoir une certaine unité ou uniformisation dans l'ensemble de ses possessions, dans un ensemble beaucoup plus vaste. Alors, cette entreprise de départementalisation dans nos régions, elle va en fait aboutir pendant le régime français à ce que vous avez là sous les yeux, en tout cas dans ses grandes lignes. Et le lien qu'il y a entre ce XVIIIe siècle dont je viens de vous parler et la toute fin du XVIIIe, la période française dont je vous parle maintenant, il est en fait personnifié par un individu qui s'appelle Charles d'Outrepont. Charles d'Outrepont qui va donc avoir en charge d'imaginer les départements pour les territoires belges. On va lui confier donc la tâche d'imaginer ces départements, de supprimer les restes de cette barbarie féodale, de supprimer les sinuosités, les enclaves, etc., et de donner un nouveau visage aux provinces belgiques. Alors, il faut savoir que Charles d'Outrepont avait déjà été à l'œuvre dans l'élaboration de ces cercles d'intendance et qu'il va reprendre ce projet-là. Dans ses archives, on retrouve les documents de 1787. Il va reprendre ces documents-là pour imaginer alors les départements demandés par les autorités françaises. Alors, il va aller donc dans le même sens que ce qui a été fait en France pour former des entités dont l'objectif était d'arriver à constituer donc des entités dans lesquelles les habitants formeraient une même famille. Et donc, au-delà des anciens particularismes, il fallait que ces départements rassemblent des personnes, rassemblent des habitants qui pourraient se sentir frères. Il fallait donc lutter contre toutes les anciennes, comme on disait, affections particulières qu'il pouvait y avoir entre tel village et telle ville, etc. Et donc, rationaliser beaucoup plus les choses. Alors, toute cette œuvre, finalement, d'anti-mémoire, puisque l'objectif était certainement d'avoir de nouveaux découpages qui permettaient de mieux gérer les territoires et les personnes, mais aussi d'effacer le souvenir de l'Ancien Régime. Donc toute cette œuvre d'anti-mémoire, elle va notamment passer par la toponymie, par de nouveaux noms, puisque l'on va notamment supprimer les noms des anciennes principautés, les noms de ces duchés, comtés, etc., d'anciens régimes. On va leur donner un certain nombre d'appellations tirées soit d'éléments naturels, d'éléments du paysage, je songe au département des forêts par exemple, ou au département de Sambre-et-Meuse, où l'on va donner, et vous êtes bien placé pour le savoir ici, des noms de batailles ou de lieux de bataille particulièrement mémorables du point de vue français. Alors, petite parenthèse, cette nouvelle toponymie ne va pas faire que des heureux, parce que dans l'ensemble des noms de ces 9 départements, il y en a qui vont vraiment beaucoup faire rire à l'époque et qui vont susciter l'hilarité d'un certain nombre de représentants. Le département des forêts ne va pas du tout apprécier de s'appeler département des forêts et va vraiment avoir l'impression d'être, comment dirais-je, un département d'arriéré. Il ne va pas du tout apprécier. Département des deux nettes. Également, on ne va pas comprendre pourquoi on lui a donné le nom, finalement, d'un cours d'eau qui est relativement peu connu à l'échelle européenne, c'est le moins qu'on puisse dire, plutôt que de lui donner un nom comme les Bouches de l'Escaut ou quelque chose comme ça, l'Escaut qui est un fleuve vraiment qui a beaucoup plus évidemment de célébrités. Bref, ça va déjà, on va déjà grincer un peu des dents en la matière. Mais surtout, Doutrepont va vouloir faire ça très vite. Il va vouloir rencontrer le vœu évidemment de ses autorités rapidement, et il va travailler un peu trop vite. Et donc, le résultat va être assez catastrophique. Il y a toute une série d'erreurs grossières dans ses découpages, dans sa réorganisation. Il y a un certain nombre de communes qui ont été omises et qui ne se retrouvent dans aucune liste, aucun département. Par contre, il y en a qui se retrouvent dans deux départements différents et qui ne sont pas du tout d'accord parce qu'alors elles doivent payer deux fois les impôts. Il y a des fermes isolées qui ont été érigées en municipalité. Donc, il y a une confusion dans au niveau de du type de, comment dirais-je, d'entité auquel on avait affaire. Donc, le travail a été fait trop rapidement. Il y a toute une série de problèmes qui se posent. Et donc, on va tout de suite avoir des réclamations importantes de localités qui ne souhaitent pas être attachées à tel canton et qui au contraire souhaitent être attachées plutôt à l'autre, qui disent on m'a oublié, où est-ce que je suis, etc. Donc on a quantité de rouspétances qui sont émises. Le travail est loin d'être parfait. Un certain nombre de personnes à l'époque regrettent aussi d'emblée que ce découpage consacre en fait la Belgique comme une entité distincte. Elle consacre la Belgique comme une entité distincte parce que finalement la frontière là, elle demeure. On n'a pas essayé de mêler ce département ou ceci avec un département français. On a conservé les départements qui correspondent à la Belgique et les départements qui correspondent à la France. Seule exception, c'est des petites entités ici au niveau de Bouillon qui vont être attachées au département des Ardennes en France. Mais dans ces grandes lignes, la volonté qui, à un moment donné, a été exprimée de faire de la Belgique une entité à part entière de l'ensemble français n'est pas véritablement rencontrée avec ce découpage, départemental tel qu'imaginé par Doutrepont. Alors, dans les réclamations qui vont venir, donc il va y avoir une première vague dès que le travail sera terminé. Il va y avoir une deuxième vague de rouspétances, justement quand on va vouloir faire le cadastre en 1807, le fameux cadastre napoléonien, où là on retrouve la question de la perception de l'impôt, donc les gens réagissent. Et donc là, de nouveau, il va y avoir une vague de réclamations qui va s'exprimer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les arguments que ces différentes localités, que ces différentes personnes vont mettre sur la table pour remettre en cause l'organisation et leur attachement de leur localité ou de leur hameau à telle ou telle autre entité. Quels sont les arguments qui sont mis en avant? Quelles sont les demandes de remaniement qui sont envisagées? Alors, ce qui est très clair à travers la kyrielle de plaintes dont on dispose, c'est que l'on fait vraiment référence au vieux vocabulaire géographique. Donc, on voit que dans les échanges de correspondance, on parle encore de la principauté de Liège, on parle encore du duché de Bouillon, on parle encore du comté de Namur, du comté de Hainaut, etc. Donc, ce vocabulaire, il est vraiment encore omniprésent. On essaye de justifier ces dépendances en fonction justement des anciennes dépendances féodales et autres. On fait également état de tout ce qui est de l'ordre des mœurs, des habitudes, des usages partagés par les populations. Il y a identité de comportement, il y a identité de mœurs, et donc on demande qu'on soit rattaché au village ou à la ville d'à côté, parce qu'il y a une certaine proximité, un certain lien de cet ordre-là. Autre argument mis en avant également, ce qui est évidemment de type plutôt naturel, le relief, les cours d'eau, etc., qui justifie ou non qu'il y ait une frontière, tout ce qui est également agencement de l'activité humaine, la langue, par exemple, dont d'Outrepont n'avait pas toujours tenu compte, puisqu'il avait tracé ça un peu au compas, véritablement au compas, sur la carte de Ferraris. Le réseau routier, les relations commerciales, etc. Tout ça, ce sont des arguments qui sont mis en avant. D'autres arguments aussi, peut-être un peu plus inattendus, qui sont ceux de la tenue des documents nécessaires à la gestion des localités. Donc, certaines communes vont mettre en avant le fait qu'elles ne vont plus s'y retrouver dans leurs archives et dans la tenue de leurs registres si, alors qu'elles dépendaient d'une localité auparavant, maintenant elles doivent dépendre d'une autre. Donc, on fait un peu flèche de tout bois, en n'hésitant pas du tout à faire appel à la situation d'Ancien Régime, à ce qui se passait autrefois. Certaines communes n'hésitent pas d'ailleurs à dire qu'elles n'ont rien à voir avec la nouvelle commune à laquelle on veut les associer, au nouveau canton, en indiquant qu'elles n'ont pas plus de choses en commun avec cette commune-là qu'avec Pékin, par exemple, pour vous dire la manière dont les choses pouvaient être perçues. Tout ce qui est également sentiment d'identité, que ce soit provincial ou que ce soit national, est également très présent dans ces revendications. Certaines communes ne veulent, anciennement Pays-Bas autrichiens, ne veulent pas être rattachées au département de Lourdes parce que c'était la principauté, enfin c'est l'héritière de la principauté épiscopale de Liège, et que en tant que sujet des Pays-Bas, ils ne veulent pas être rattachés à une entité qui n'était pas les Pays-Bas. Donc tout ça ressurgit, tout ça est mis en avant, de telle sorte qu'il faut vraiment réaménager et qu'il y a toute une série de réaménagements qui sont faits. Des réaménagements qui vont finalement aboutir lors de la chute du régime français et l'instauration alors du régime hollandais à, je vais dire, une solution qui peut-être est à la fois le crépuscule d'un ancien régime et l'aube d'un nouveau, puisque on va conserver sous la période hollandaise les découpages, mais l'on va revenir à des noms qui sont notamment ceux de l'Ancien Régime, puisque l'on va abandonner les intitulés des départements pour revenir et récupérer les appellations qui étaient celles d'autrefois. Voilà, je vais clôturer ici cet aperçu, peut-être un peu trop rapide, de cette révolution géographique, de cette réorganisation territoriale qui n'est pas née de rien, qui se base sur toute une série de tendances, de courants déjà exprimés au XVIIIe siècle, qui constituent à la fois, je crois, des nouveautés, mais en même temps peut-être pas aussi radicales que ce que l'on pourrait parfois croire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Alors, un des buts de ces cycles de conférences, c'est de mieux comprendre notre monde par la connaissance du passé. Je ne m'y attendais pas du tout aujourd'hui, mais j'ai l'impression que je comprends un peu mieux toutes les difficultés autour de la scission de BHP. Alors, j'imagine que comme moi, vous êtes à la fois très intéressé par cet aperçu tout à fait différent et sur nos et sur notre territoire et en même temps un peu frustrée de ne pas avoir entendu parler de ces grands événements de la Révolution française, je suis sûre que notre conférencière acceptera de répondre aussi sur ces domaines-là si vous avez des questions et je vous cède immédiatement la parole pour vos questions ou commentaires.
Vous n'avez pas dit un mot du rôle du clergé, du haut clergé, notamment dans toutes ces histoires BHV-là. Pourtant, on peut bien imaginer que ça ne s'est pas bien passé pour ces gens-là non plus.
Tout à fait. Maintenant, souvenez-vous que le clergé, à ce moment-là, est en très mauvaise posture, puisque nous avons toute une série de mesures qui ont été prises et qui mettent à mal le clergé catholique à l'époque. Et donc, il va être extrêmement peu présent dans ces différentes questions de réorganisation territoriale. Je ne parle pas, bien entendu, de la réorganisation des paroisses sous Joseph II, où, bien entendu, le clergé s'est manifesté. Mais dans ce qui est de la réorganisation sous le régime français, il est extrêmement peu présent. On lui donne d'ailleurs relativement peu la parole. Et il a, à ce moment-là, véritablement d'autres chats à fouetter avec la constitution civile du clergé, etc. Mais vous avez tout à fait raison de souligner que, évidemment, ceci a un impact sur les circonscriptions ecclésiastiques, puisque depuis déjà les réformes de Philippe II, il y avait une volonté d'essayer de rapprocher les circonscriptions ecclésiastiques et les circonscriptions civiles. Que cela était resté, comment dirais-je, très partiel, que Joseph II a voulu aller un cran plus loin, mais que il a échoué, et que la question restait en suspens. Et elle n'est d'ailleurs pas totalement résolue ici, puisque dans les questions donc de départementalisation, on n'a pas pris comme critère le souhait de faire correspondre les limites des départements avec les limites des doyennés ou les limites des évêchés. Hein? Donc, effectivement.
Oui. Est-ce que cette nouvelle répartition géographique que vous venez de nous montrer a eu également une influence ou a-t-elle été influencée par la conscription militaire pour les armées?
Elle a servi de base. Puisque on a quand même réorganisé les cantons, enfin on a au niveau de la hiérarchie, on a réorganisé au niveau des cantons, on a réorganisé les municipalités, et donc elle a servi de base pour effectivement la levée des conscrits. C'était relativement impensable de faire cette opération-là sur la base d'ailleurs des anciens découpages. Et tout comme en France, cette réorganisation territoriale a véritablement donné le cadre dans lequel cette opération a pu être menée. Mais vous aviez peut-être quelque chose de particulier en tête.
Non.
Ça va.
Donc voilà, moi ma question elle se situe au niveau des emblèmes et des blasons, donc ces éléments qui étaient fortement utilisés durant l'Ancien Régime. Lorsqu'on crée ces départements, est-ce qu'on garde un blason qui représente le département? Est-ce qu'il en existe? Est-ce qu'il n'en existe pas? Ou alors est-ce que ceux qu'on connaît actuellement sont issus de la période hollandaise?
Oui, bon, alors tout de suite, je vais dire, je ne suis pas spécialiste des blasons, donc je disais, je ne pourrais pas répondre tout à fait à votre question, mais c'est tout à fait évident qu'au moment où on a créé ces nouvelles entités, on a essayé d'évacuer au maximum ce qui était évidemment le symbole du pouvoir seigneurial, de l'Ancien Régime, etc. Alors, je ne saurais franchement pas répondre pour savoir si ce que l'on a aujourd'hui est le résultat uniquement de ce qui a été créé à l'époque française, ou si c'est, je pense que ça a quand même été également modifié à l'époque hollandaise, mais je ne pourrais pas répondre plus avant. Mais il y a une volonté, oui, radicale de changer tout ce qui est d'ordre visuel à l'époque, ça c'est certain. Voilà.
En France, la nationalisation des biens du clergé a abouti à un grand nombre de destructions, en particulier des abbayes et de toutes les structures que les abbayes constituaient depuis des siècles. Est-ce que la même chose s'est produite en Belgique ?
Alors, je vais vous dire oui et non. Ce processus ne s'est pas du tout produit de la même manière chez nous, dans le sens où, à l'époque, nos régions, beaucoup de nos régions, connaissent la révolution industrielle et sont donc à la recherche d'espaces de développement d'activités industrielles. Et un certain nombre de ces espaces d'abbayes abandonnés par les religieux ou les religieuses vont donc être récupérés pour y installer des industries. Et donc, c'est de cette manière-là que les bâtiments vont survivre. Évidemment, ils vont être transformés, mais un certain nombre vont, de cette manière-là, ne pas être rasés, ne pas être totalement détruits. Ceci dit, en France, il va quand même y avoir également un processus de récupération d'un certain nombre de ces bâtiments, peut-être moins pour l'implantation d'activités industrielles que ce qu'on va connaître chez nous, mais pour toute une série d'activités de type militaire, magasins à foin pour les armées, etc. Donc, abandon et comment dirais-je, nationalisation des biens du clergé, suppression d'ordre religieux, etc., ne signifie pas nécessairement que les bâtiments en tant que tels vont être rasés. Bon, il y a aussi tout ce qui est lié et qui est important aux besoins de la construction, puisqu'on va aussi être dans une période de hausse démographique importante chez nous, et un certain nombre de ces bâtiments vont être pillés en termes de matériaux de construction pour permettre la construction d'habitations par ailleurs.
Y a-t-il une dernière question ? Dans ce cas, je remercie Madame Parmentier. Je vous invite lundi prochain à venir écouter Alain Piette qui nous parlera de la naissance des États-Unis d'Amérique.
Merci.